Merci d'être avec nous sur RFI à 10h temps universel, 11h ici à Paris. Bonjour.
Charlotte Idrac.
Dans ce journal, Donald Trump signe l'arrêt de mort du ministère de l'Éducation. Le président américain l'avait annoncé. Il veut enterrer le département et redonner le pouvoir en la matière aux États. Projet applaudi par la droite. Mesure dévastatrice pour les démocrates. À suivre aussi les raisons de l'élection de Kirsty Coventry à la tête du Comité international olympique. L'ancienne nageuse zimbabwéenne, première femme à la tête de l'institution et première africaine. De bonnes intentions, mais trop d'erreurs techniques et un jeu laborieux, selon le sélectionneur des Bleus. Après la défaite de l'équipe de France, 2-0 face à la Croatie en quart de finale aller de la Ligue des Nations pour Didier Deschamps. Pour le match retour dimanche, il faudra faire beaucoup mieux. Éliminer le ministère de l'Éducation une bonne fois pour toutes, c'est ce qu'a dit Donald Trump. C'est une promesse de campagne du président américain qui a donc signé hier un décret qui lance son démantèlement. Il dit vouloir redonner tout le pouvoir en la matière aux États et cela pour, selon lui, renforcer le niveau national de l'éducation. Décret salué par les ultra-conservateurs. Il voit en l'école un champ de bataille contre les idées progressistes, mais qualifié de coup de force tyrannique par le chef des démocrates au Sénat, Lubna Anaki.
Nous allons fermer le département très vite, se félicite Donald Trump en signant le décret rendant officiel sa volonté de démanteler le département de l'éducation. C'est un jour historique, dit-il. Et pour justifier sa décision, le président américain critique le mauvais niveau de l'éducation dans le pays. Il dit vouloir redonner la main aux États.
On va renvoyer le contrôle aux États. C'est une mesure très populaire, mais avant tout, une mesure de bon sens. Cela va probablement coûter moitié moins cher pour une éducation qui sera bien, bien meilleure.
En réalité, les États contrôlent déjà comment et quelles matières sont enseignées. Le département, lui, s'occupe principalement des programmes destinés aux élèves démunis, à ceux en situation de handicap, et gère aussi l'immense dette étudiante. Et surtout, le département de l'éducation a été créé par le Congrès et seul le Congrès peut donc le fermer. Mais ce que le président américain essaye de faire, c'est de réduire au maximum la masse salariale ainsi que les services assurés par le département. Un travail qui a déjà commencé car ces dernières semaines, le nombre d'employés a été réduit de plus de la moitié. Le décret signé hier a été vivement critiqué par certains élus démocrates et des syndicats d'enseignants qui dénoncent, je cite, un théâtre politique. Lubna Anaki, New York, RFI.
Déjà des recours en Israël après le limogeage du chef du Shin Bet, l'agence de sécurité intérieure, confirmée la nuit dernière par le gouvernement de Benjamin Netanyahou. L'opposition et une ONG contestent cette décision devant la Cour suprême. Dans une lettre rendue publique hier soir, le patron du Shin Bet estime que le but de son limogeage est d'empêcher, je cite, les enquêtes sur les événements qui ont conduit aux attaques du 7 octobre et que son éviction est basée sur l'intérêt personnel. Première femme, première africaine à ce poste, la plus jeune aussi, à seulement 41 ans, la zimbabwéenne Kirsty Coventry prendra la tête du CIO, le Comité international olympique, au mois de juin. Elle succédera à l'allemand Thomas Bach. Un seul tour a suffi pour son élection. Hier, victoire à la majorité absolue devant des poids lourds. Alors comment expliquer ce succès, Baptiste Leduc ?
Bien sûr, il y a le mouvement de l'histoire, de la nouveauté derrière l'élection de Kirsty Coventry. Si les Jeux olympiques ont voyagé partout, sauf en Afrique, leur comité international n'avait jusqu'ici été présidé que par des Européens ou des Américains. Une femme africaine à la tête du CIO, ce n'est pas anodin, son âge non plus. L'ex-nageuse, championne olympique du 200 mètres d'eau en 2004 et 2008, accède à la présidence à 41 ans, ce qui fait de Kirsty Coventry la plus jeune personne à occuper le poste depuis le baron Pierre de Coubertin lui-même. Ce vent de fraîcheur a séduit, tout comme la capacité de Coventry à rassembler le monde olympique. Son programme, pour l'instant, se veut très consensuel, dans la lignée directe du travail de son prédécesseur, l'allemand Thomas Bach. Cette filiation est d'ailleurs l'autre explication de la victoire de Coventry. Ces dernières années, Thomas Bach a poussé la zimbabwéenne sur le devant de la scène, jusqu'à appuyer sa candidature, pas officiellement en tout cas, mais elle semblait avoir les faveurs de l'ancien fleurettiste. Cela devrait faciliter la transition, mais pas le travail de Kirsty Coventry. Question des athlètes transgenres, intégration de la Russie, les défis qui l'attendent sont nombreux.
Et candidat malheureux, le français David Lapartient, lui, annonce qu'il ne briguera pas de nouveau mandat à la tête du comité olympique tricolore. tricolore au mois de juin. Au Soudan, l'armée dit avoir repris le palais présidentiel dans la capitale Khartoum, et cela après une bataille acharnée avec les paramilitaires des forces de soutien rapide, les FSR, qui avaient pris le contrôle du palais en avril 2023. Et à l'instant, une source militaire indique que les paramilitaires ont lancé des frappes avec des drones sur le palais présidentiel. Comme souvent, c'est dans la nuit que le limogeage a été annoncé en Tunisie. Le Premier ministre Kamel Madouri, débarqué par le président Kais Saied, il était en poste depuis le mois d'août. Il a été remplacé dans la foulée par la ministre de l'Équipement, Sarah Zafrani Zenzri. Un appel du président français à son homologue algérien, Emmanuel Macron, dit sa confiance dans Abdelmadjid Tebboune pour une issue rapide sur le sort de Boualem Sansal. L'écrivain franco-algérien poursuivi pour atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie. Le parquet a requis 10 ans de prison ferme à son encontre hier. Procédure politique selon ses soutiens, dont fait partie Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire.
On est inquiet parce que les motifs de son arrestation reposent sur des charges qui sont toutes politiques. Il est aujourd'hui incarcéré en raison de sa liberté d'expression. Il est incarcéré aussi du fait de la dégradation des relations entre la France et l'Algérie depuis la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Après, nous, au niveau de ce que nous faisons et de ce que nous avons déjà fait, c'est bien évidemment de maintenir la pression de la mobilisation à la fois médiatique sur l'opinion, sur le politique, pour que tout soit fait. C'est-à-dire que tous les leviers que nous avons à notre disposition pour essayer de trouver une issue rapide au sort détestable dans lequel les autorités algériennes ont plongé Boualem Sansal soient en effet mis en œuvre.
Voilà, Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire soutien de Boualem Sansal avec Sylvie Kofi. La justice algérienne rendra son verdict le 27 mars prochain. Annulation en pagaille à Heathrow, l'aéroport londonien, le plus grand d'Europe, fermé toute la journée ce vendredi après une panne de courant déclenchée par un incendie dans une sous-station électrique qui dessert l'aéroport. Et conséquence, les vols ont dû être détournés, retardés ou alors tout simplement supprimés. Heathrow sera fermé jusqu'à ce soir 23h59. Dimanche, il va falloir faire beaucoup mieux pour les Bleus. Le sélectionneur Didier Deschamps le reconnaît après la déception d'hier soir face à la Croatie. En quart de finale, aller de la Ligue des Nations, 2-0, malgré le retour de Kylian Mbappé, malgré le meilleur buteur d'Europe, Ousmane Dembélé, c'est raté et les chances de qualification pour la suite de la compétition sont sérieusement compromises, Cédric de Oliveira.
C'était le 166e match de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France et ça restera un mauvais souvenir pour le sélectionneur qui a tenté d'expliquer cette défaite sans appel contre les Croates.
On a commis beaucoup trop d'erreurs techniques, d'approximation et un adversaire déjà qui a de la qualité quand on lui donne des opportunités, elle nous a punis. Il n'y a pas grand-chose qui m'a plu.
Fébrile et complètement dépassé, les Bleus ont pris une leçon de football. Menés 2-0 à la pause, ils ont un peu réagi ensuite, mais sans parvenir à marquer malgré les efforts de leur capitaine Kylian Mbappé. Son coéquipier Matteo Guendouzi tente de s'accrocher à des choses positives.
On aurait peut-être dû faire beaucoup plus chacun individuellement sur la première mi-temps. Le plus important, c'était de renverser ça sur la seconde mi-temps et il y a des lueurs d'espoir pour le match retour.
Les Bleus déjà tournés vers ce match retour dimanche au Stade de France. L'attaquant Randal Kolo Muani est convaincu qu'ils peuvent tout renverser.
Vite se remobiliser pour être prêt au match retour à la maison. Je sais qu'on est plus à l'aise avec nos supporters et je pense qu'on fera mieux à domicile.
Deschamps et ses hommes ont du travail pour éviter une nouvelle désillusion. La dernière fois que les Croates sont venus au Stade de France il y a 3 ans, ils étaient repartis avec la victoire. Cédric de Oliveira, Split, RFI.
Et à noter dans les autres matchs de la soirée, le match nul entre les Pays-Bas et l'Espagne de partout. L'Allemagne s'est imposée en Italie 2-1 et le Danemark a battu le Portugal 1-0. Et puis ils sont considérés comme les châteaux d'eau de la planète. Les glaciers sont en danger en cette première journée mondiale qui leur est dédiée. L'ONU le rappelle, la préservation des glaciers est une question de survie pour l'humanité. On y reviendra notamment dans l'émission C'est pas du vent tout à l'heure avec Anne-Cécile Bras, 14h10, temps universel. Et pour l'heure à 10h10, TU, on vous retrouve Diarra Ndiaye pour 8 milliards de voisins. À tout à l'heure.